Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, merci d'être avec nous dans le meilleur de l'info ce soir. Je suis heureux d'accueillir Jean-Christophe Cambadélis. Vous êtes ancien premier secrétaire du PS. Vous avez encore des activités politiques ou pas?
Ah, bien sûr. Je suis toujours membre du PS. Je suis même membre de son conseil national.
Donc tout ce que vous allez dire sera décompté ce soir.
Voilà, oui, j'avais bien compris.
C'est important. Rebonsoir, Yoann Uzaï. Dans un instant, on sera également avec Muriel Wachnin qui nous rejoindra par visio. On a pas mal de sujets politiques hein, ce soir, évidemment. Et à travers votre regard, on va essayer de comprendre la gauche. Bon, la gauche, c'est large, pas que le PS. La gauche, c'est aussi, ce soir, c'est aussi LFI. Et c'est assez mystérieux, parfois, LFI. En tout cas, LFI crie à la censure, à la liberté d'expression qu'on assassine. La conférence avec Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon, qui ressemblait plus à un débat politique qu'une conférence d'ailleurs. Bon, conférence à Fac de Lille a été annulée, vous le savez. On rappelle qu'elle se faisait avec une association qui réclame la suppression de la carte d'Israël. Donc conférence annulée, elle devait avoir lieu ailleurs. Aujourd'hui, le préfet a dit non. Deuxième conférence annulée, le leader des Insoumis a donc décidé de prendre la parole dans la rue au nom de la liberté d'expression. Et au nom de la liberté d'expression, LFI vient de traiter ces news de chaîne infâme.
Vous n'avez pas le droit de dire que Madame Rima Hassan ou que Jean-Luc Mélenchon sont des antisémites. Parce que si vous le pensiez, vous devriez porter plainte et vous ne le faites pas. Vous êtes donc juste là pour salir, pour insulter. Mais au-delà de nos personnes, pour créer une ambiance effroyable. Celle où les Français viendraient à se regarder entre eux et deviner à la courbure des cheveux, à la légère coloration de la peau, de quel côté vous vous trouvez. La patrie des Français appartient à tous les Françaises et tous les Français, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau. Et nous défendons l'unité du peuple français, parce que c'est cette unité qui est notre force.
Bon, franchement, Yoann, il faut préciser, vous l'avez dit tout à l'heure chez Pascal Praud, vous avez reçu beaucoup de soutien, beaucoup de messages aujourd'hui parce que vous êtes la cible d'une plainte de Rima Hassan et vous êtes attaqué pour des positions antisionistes. Vous l'avez attaqué en tout cas pour ses positions antisionistes, un peu au-delà de ce qu'elle peut supporter, cette dame, visiblement.
Oui, j'ai rappelé les déclarations passées de Madame Hassan qui me pousse a affirmé qu'effectivement, elle a la haine des Juifs chevillée au corps. Quand on vous interroge pour savoir si l'action du Hamas est légitime et que vous répondez « oui, c'est vrai, l'action du Hamas est légitime », légitime le pogrom du 7 octobre, elle trouve une justification à cela. Si là, on n'est pas dans l'antisémitisme, alors où est-on? Quand on la questionne pour savoir si l'État d'Israël a le droit de se défendre et qu'elle dit non, pas du tout, c'est faux, Israël n'a pas le droit de se défendre.
Vous la citez là. Sur des...
Je la cite, ouais. Naturellement. Donc là, on n'est pas dans l'antisémitisme. Quand on a sur son affiche, une affiche de meeting, sa photo, son nom accolé à un logo d'un groupuscule appelé Free Palestine qui a rayé de la carte l'État d'Israël et donc par extension qui souhaite rayer de la carte le peuple juif. Est-ce que là on n'est pas dans l'antisémitisme? Je pose à nouveau la question. On pourrait multiplier les exemples comme ça à l'infini. Il nous faudrait toute l'émission. Donc effectivement, cela m'a conduit à dire que Rima Hassan était dans l'antisémitisme. Elle m'attaque pour cela. Eh bien écoutez, nous échangerons nos arguments. Je suis un journaliste, pas un opposant politique, et nous échangerons nos arguments devant le tribunal.
Bon, et jamais un mot sur les otages, évidemment.
Jamais, évidemment.
S'en prendre à les journalistes, c'est pas tout à fait nouveau. Vous avez découvert comme nous ce soir le propos de Jean-Christophe Cambadélis et les propos de Jean-Luc Mélenchon. Vous connaissez bien Jean-Luc Mélenchon, hein?
Oui, je le connais très bien. Je connais très bien. Je sais quand est-ce qu'il fait de l'esbrouf.
Là, il est menaçant. Là, il est très menaçant.
Non, faut pas non plus. Être sensible au niveau vocal.
C'est pas une question de sensibilité, c'est-à-dire que non mais il est en train de mettre une cible sur les journalistes de cette chaîne et plus largement sur le dos de Johan.
J'y reviendrai, mais commençons par Jean-Luc Mélenchon. Chaque chose en son temps. Jean-Luc Mélenchon a fait ce qu'on appelle une provocation. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Et on a fait une bêtise en interdisant ces meetings. La provocation avait pour but d'attirer l'attention sur la France insoumise, qui se trouve aujourd'hui dans une difficulté, qui ne domine pas la gauche, puisque aujourd'hui c'est Raphaël Glucksmann qui est en dynamique. Donc il y avait une volonté d'attirer l'attention parce que on est en perte de vitesse. C'est comme d'un seul coup, il y a une campagne de meeting sur la question palestinienne. Ce n'est pas le livre de Jean-Luc Mélenchon. On fait venir une colistière qui est quelqu'un qui a vécu dans les camps et qui est violemment hostile à Israël. Bon, mais on sait très bien ce qui va se passer. Donc c'est une provocation. Et après, il faut pas interdire les meetings. En France, on est dans un état de droit, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de défendre des positions, même si ces positions peuvent choquer, même si on peut dire ce que j'ai entendu là. Je ne crois pas que la personne en question soit dans l'antisémitisme tel qu'on l'entend de manière classique. C'est de cela dont parle Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi c'est une infamie pour lui? Parce que l'antisémitisme, c'est celui qui renvoie aux années 30. Mais nous sommes dans le classique antisioniste.
Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'antisionisme qu'on a en France, c'est de l'antisémitisme. Faut pas être dupe non plus.
Non, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'antisionisme, vous êtes contre un État. L'État d'Israël. Moi, je défends pas ça, je le combats même. Je combats cela. Mais vous combattez le fait que les Palestiniens ont dû quitter leur terre à un moment donné, au lendemain de la guerre, parce qu'on a donné une partie du territoire à Israël et qui n'a pas pu se constituer un autre État.
Rappelez les raisons. Il faut toujours rappeler aussi les raisons pour lesquelles on a donné cet État.
On peut les rappeler. Moi, je ne conviens pas. Mais il devait y avoir un deuxième pas. Il n'y en a pas eu. Après, il y a eu tous les conflits que l'on connaît et aujourd'hui encore. Mais c'est par rapport à Israël. Ils ne sont pas pour faire la course aux Juifs en France.
Quand on ne dénonce pas un pogrom, quand on dit bravo, oui, bravo les résistants, il y a un moment, il y a des mots pour
mais,
ça.
Mais écoutez, moi, je ne vais pas être l'avocat d'une position qui n'est pas la
mienne.
Moi, je le dénonce, mais en même temps, je dis attention à l'ensauvagement de la vie publique. C'est-à-dire que on se traite d'antisémites, on traîne les journalistes devant les tribunaux, on déclare ici ou là des propos invraisemblables sur des militants socialistes. J'ai dit attention, c'est un dérapage dans notre société.
Pardon, mais quand on soutient le Hamas, quand on est en soutien d'un groupe terroriste, excusez-moi, ça signifie qu'on souhaite la mort des Juifs. On ne peut pas appeler les choses autrement. Quand on soutient un groupe terroriste qui a commis le pogrom du 7 octobre, ça signifie qu'on souhaite la mort des Juifs. Point, le débat est clos.
Bon, non, il n'est pas clos, vous le savez très bien. Moi, je suis d'accord sur le fait que c'est un pogrom, qu'il y avait la volonté de la part du Hamas de faire un pogrom. On peut même penser qu'il y avait une provocation pour pouvoir avoir une réaction. C'était une manière de mettre à l'agenda la question palestinienne. Je l'ai condamné, j'ai manifesté, je continue à le condamner. Et je ne pense pas, contrairement à Jean-Luc Mélenchon et d'autres, que le Hamas soit le parti de la résistance palestinienne. Bon. Pour moi, c'est la déviation de la résistance palestinienne dans une idéologie qui est islamiste.
On est en ligne avec Muriel Watkin-Melki, avocate, présidente de l'organisation juive européenne. On va parler d'une décision importante qui a été prise précisément à Lille. Mais avant, vous avez entendu, Muriel, les propos de Jean-Luc Mélenchon. Il dit, mais si on est des antisémites, attaquez-nous. Est-ce qu'on peut attaquer et est-ce qu'il n'y a pas déjà, d'ailleurs, des plaintes qui ont été déposées contre LFI?
Alors, il y a bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Il y a des plaintes qui ont été déposées contre certains députés LFI. Donc, nous attendons toujours les résultats de la part des enquêteurs qui sont en charge de ces dossiers. Donc, ces dossiers sont traités. Ils donneront lieu ou pas à des poursuites. Nous serons plus intelligents dans quelques semaines, sans doute. Ce sont des plaintes qui ont été déposées depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a raison de dire que parce que l'on n'est pas poursuivi en justice, on n'est pas antisémite ? La réponse est non. Tout n'est pas poursuivable en fait en justice, il faut le savoir. Il y a des propos que l'on peut poursuivre. Dès que ces propos constituent une injure à caractère antisémite, une provocation à la haine en raison de l'appartenance à la religion juive, eh bien, dans ce cas-là, nous saisissons le procureur en déposant des plaintes, mais Jean-Luc Mélenchon connaît très bien les rouages de notre système judiciaire et de notre code de procédure pénale et de notre code pénal, et il arrive à passer pour l'instant entre les mailles du filet judiciaire. Est-ce que ce sera toujours le cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Rien n'est moins sûr. Plus il multiplie ses interventions sur ce thème-là, plus il prend des risques et plus il s'expose. Et nous serons et nous sommes très vigilants par rapport aux propos qu'il peut tenir.
Alors, il y a une décision, Muriel Wakin, peut-être qui peut changer les choses. C'est une décision qui a été prise aujourd'hui. Tribunal correctionnel de Lille, décision qui pourrait faire jurisprudence. Donc, condamnation contre M. Jean-Paul Delescot, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT du Nord. Il est condamné à un an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme suite à des propos tenus dans le tract que vous voyez ici de soutien à la Palestine. Je vous en parlais encore hier. Tract publié 3 jours après le pogrom du 7 octobre. Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Voilà ce qui était écrit dans ce tract, notamment Muriel Wakin. Cette décision était attendue et, je le disais, va peut-être faire jurisprudence.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est aussi la motivation que la présidente De Vos a donnée à l'audience au tribunal correctionnel de Lille aujourd'hui. Elle a pris le temps d'énoncer longuement la motivation de l'arrêt, de la décision, pardon. Et moi, j'ai noté trois points qui sont très importants. La temporalité, c'est-à-dire le moment où ce communiqué a été pris, soit 3 jours seulement après le pogrom du 7 octobre, donc le 10 octobre, et elle a mentionné une temporalité sans équivoque, c'est un point important qu'elle a souligné. Elle a également considéré que les propos que nous avons sous les yeux sont bien constitutifs d'une entreprise de dédiabolisation d'un groupe que la communauté internationale qualifie de terroriste. Il s'agit bien évidemment du Hamas. Et enfin, elle a considéré, ce que nous avions aussi plaidé longuement avec mon confrère Nicolas Benoëch à l'audience, que les actes en question étaient bien des actes terroristes, mais que surtout, il y avait une forme de justification dans le cadre de ce communiqué qui avait été rédigé vraisemblablement par un comité de la CGT et mis en ligne par M. Delescot, qui était la personne qui était poursuivie, secrétaire général de la CGT Lille. Alors, c'est une décision qui est très importante parce qu'elle vient dire précisément que l'on ne peut pas tenir ce type de propos, c'est-à-dire faire de l'apologie du terrorisme présenté sous un jour favorable ou, en fait, venir légitimer les actes qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre sans faire l'objet de poursuites et de condamnations. Et la condamnation qui est tombée est une condamnation qui est très ferme. 1 an avec sursis pour une personne qui n'a pas de casier judiciaire, c'est quelque chose de très ferme. Le tribunal a par ailleurs salué le travail que notre organisation avait fourni dans cette affaire puisqu'il nous a alloué pas moins de 5 000 € de dommages et intérêts, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel pour devoir être souligné, ce qui veut dire en fait aussi que nous, les organisations qui luttons contre l'antisémitisme, contre l'antisionisme, sous toutes ses formes, nous sommes aussi encouragés par le tribunal et par la justice à faire ce travail qui profite à tous. Et je ne considère pas pour ma part que le débat est clos, Monsieur Cambacénis, pour reprendre votre propos. Nous sommes véritablement au cœur de la problématique dont toute la France souffre depuis le 7 octobre, cette haine antisémite qui se déverse depuis les attentats du 7 octobre vient pourrir le vivre ensemble sur le sol national. Et la seule possibilité, en fait, pour y mettre un terme, c'est bien évidemment considérer que le débat n'est jamais clos dans cette matière de lutte contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Et l'antisionisme en fait donc partie. Et les apologies du terrorisme, quand elles présentent le Hamas comme un mouvement de résistance ou quand elles légitiment ces actes, en font également partie. Il faut le dire de manière ferme, de manière claire et c'est ce que la justice a fait aujourd'hui.
Merci Muriel Wakni. Jean-Christophe Cambadélis va quand même vous répondre, mais je vous remercie de cet éclairage.
Écoutez, maintenant, il y a une décision de justice, donc on est censé la respecter. Mais moi, je persiste et je signe d'un certain point de vue. Il y a une montée de l'antisémitisme. Elle doit être combattue. Et les responsables politiques doivent prendre en compte cette montée de l'antisémitisme dans leurs propos. Mais attention à ne pas déporter le débat que dans un sens. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui souffrent en Palestine, à Gaza. Et si on a cette vision qui est de dire qu'il n'y a que l'antisémitisme en ce moment en France, je crois qu'on est en train de donner de l'eau au moulin à ceux qui veulent instrumentaliser ce conflit à d'autres fins. Donc,
mais
ce que je dis,
Jean-Luc Mélenchon aussi en fait partie.
Respectons. Parle de ça. Hein, respectons ce que dit la justice. Hein, et essayons d'être objectifs, parce que je reprendrai cette formule de François Mitterrand, à qui l'on demandait une prise de position assez forte par rapport au conflit israélo-palestinien, qui disait « nous sommes d'abord français ».
Bon,
donc, ça, c'est, commencer c'est, ça, par cela.
Bon, je voulais que tout à l'heure, vous avez parlé de la liberté d'expression. Vous étiez pour que cette conférence se tienne, même si on peut discuter de ce lieu. Est-ce que c'est à la fac que ça doit se faire? Emmanuel Macron, qui arrive aussi un peu après la bataille quand même, s'est prononcé ce soir pour la liberté d'expression, même d'expression qui est le combat.
Je pense que c'est très important dans les moments que nous vivons que l'ensemble des voix puisse s'exprimer de manière libre et qu'après chacun puisse combattre les arguments qui sont exprimés librement. Je ne partage pas la vision des choses, ni sur le conflit au Proche-Orient, ni sur beaucoup de choses, de Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que c'est important qu'il puisse exprimer sa voix. Et c'est la même chose pour M. Zemmour. Et je pense que ça a toujours été la force de la République, c'est de nous battre pour que toutes les voix puissent s'exprimer, toujours dans un cadre respectueux, mais qu'elles puissent s'exprimer. Quand bien même nous combattons leurs idées, mais on le fait d'argument à argument.
Voilà, et Éric Zemmour, lui aussi, a dit « Mélenchon a le droit de s'expliquer et de s'exprimer. On ne m'a jamais vu, on ne verra jamais me réjouir qu'un adversaire soit censuré. Même si on s'en doute, il ne me rendra jamais l'appareil. » Et vous me disiez tout à l'heure que vous qui avez combattu le FN, n'avez jamais demandé...
Je n'ai jamais demandé, c'est ce qui m'opposait à d'autres mouvements comme Ralph Hon, je n'ai jamais demandé l'interdiction des meetings. J'étais pour le harcèlement démocratique à l'époque. Ce qui a... partie fonctionner, partie pas fonctionner vu la situation actuelle, mais je n'ai jamais demandé l'interdiction des meetings.
Mais il est vrai que la prise de position du président de la République est quand même très surprenante, parce qu'il dit il aurait fallu...
Oui, mais il dit après.
Non, mais il dit il aurait fallu autoriser la conférence de Jean-Luc Mélenchon, mais qui l'a interdite, cette conférence? C'est le préfet qui agit au nom de l'État, donc au nom du gouvernement.
C'est ça qui
donc
c'est
il y a quand même un grand paradoxe.
Je pense quand même que on est dans le Nord, il me semble. Je pense quand même que le ministre de l'Intérieur était au courant de la décision.
Évidemment, à minima.
Donc là, c'est un recadrage de M. Darmanin en public.
Ah, c'est ce que vous pensez. C'était un recadrage. Évidemment. Mais il est très loin, M. Darmanin. Il est
Vous pensez quand même qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe en France aujourd'hui.
Un préfet n'interdit pas une réunion politique sans l'aval de...
Mais est-ce que c'est parce que c'était à la fac? Est-ce que c'était parce que dans une fac?
Ils l'ont interdit à la fac, mais après, ils l'ont interdit dans... la ville.
Bon, la fac, est-ce que c'est un lieu de débat? Est-ce que c'est le lieu de la politisation du débat? On a encore vu des images ces dernières heures à Sciences Po, festival de théâtre qui a servi d'alibi à des manifestations pro-palestiniennes et antisionistes. Je le dis moi aussi, je l'affirme. Vous-même, vous avez beaucoup milité dans vos années étudiantes, me semble-t-il. Vous avez été président de l'UNEF. Donc la fac, c'est le lieu, d'abord c'est le lieu de ces drapeaux palestiniens, c'est le lieu de la colère, c'est le lieu du soutien, c'est le lieu des amphis Gaza. On est à Sciences Po.
C'est pas nouveau, hein. franchement.
Moi, j'ai pour connu... Sciences Po, c'est nouveau.
Bon, bien sûr que non, c'est pas nouveau pour Sciences Po. Beaucoup de ceux qui, aujourd'hui, nous ont gouvernés sont passés par Sciences Po et ont fait de la politique. Bon, c'est par François Hollande. C'est pas nouveau. Dans les facs, c'était comme ça. Il y avait des amphithéâtres au nom de la résistance vietnamienne ou autre chose qui donnait lieu à des chahuts, à des controverses, etc. C'est les libertés universitaires. Il faut pas y toucher. C'est la possibilité de s'exprimer et de combattre.
Bien sûr.
Vous êtes en désaccord. Là-dessus, je rejoins entièrement.
Quand vous avez des étudiants juifs qui n'ont pas le droit d'accéder à une salle ou une autre.
Ça, faut pas l'accepter. Il n'y a pas de privation pour telle ou telle catégorie de Français. Mmh. Une catégorie, ce n'en est pas une, puisque ce sont des Français. Bon, voilà, ils veulent rentrer, ils rentrent, et puis on débat.
Oui. Ce qui m'interroge quand même, parce qu'il y a des manifestations pro-palestiniennes à Sciences Po. Après tout, pourquoi pas? Mais la question que nous devons tous nous poser collectivement, pourrait-il y avoir des manifestations pro-israéliennes dans ces facs et notamment à Sciences Po? Je crois que nous connaissons tous la réponse. La réponse est non, parce que ça se passerait évidemment extrêmement mal. Ils seraient harcelés, ils seraient peut-être même insultés ou violentés physiquement, etc.
Je ne suis pas sûr.
Mais moi, j'en suis certain et c'est bien ce qui me ronge principalement. C'est de voir que des manifestations ne pourraient pas avoir
lieu alors
qu'elles ont lieu pour les Palestiniens.
L'ultra-violence des mineurs. Un nouveau chapitre. On est dans une société qui sort les couteaux, ça ne vous a pas échappé, où l'on roule sur des policiers, où le refus d'obtempérer se multiplie. Il y a quelques jours, on vous a parlé de ce qui s'est passé à Chilty Games, un adolescent de 17 ans qui a foncé, on va voir les images sur un policier municipal, le renverse, il y a une femme qui est avec un bébé dans un landau qui se trouve sur la route au même moment, et le type s'enfuit, il est retrouvé. Aujourd'hui, il a été libéré, il est sous contrôle judiciaire. Et il sera jugé en juin, sous contrôle judiciaire. Et le message qui passe là, c'est que tu écrases un policier municipal, tu peux te retrouver libre. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que tout est normal? Est-ce que sur la justice des mineurs, on marche sur la tête?
Oui, quand on vous présente comme ça. Il y a une justice en France. C'est un juge d'application des peines qui a pris sa décision. Ce n'est pas quelqu'un qui est passé par là et qui a dit... vous allez ressortir. Cette violence est condamnable. Mais la jeunesse, c'est la plaque sensible de la société. Elle exprime la violence dans la société française. Nous l'avons, là, il y a quelques minutes, exprimé sur un certain nombre de sujets.
C'est quoi le terme pour vous? C'est des civilisations, c'est autre civilisation, c'est ultra-violence, c'est quoi?
Tout le monde emploie.
C'est orange mécanique, c'est quoi?
Oui, c'est vieux comme Star Story, par exemple. Mais si vous voulez, faut pas le banaliser. C'est un ensauvagement. Bon. Notre société. Il faut prendre un certain nombre de mesures. Parce que là, on dit tous, sur les plateaux ou dans les meetings, ce n'est pas possible, ce n'est pas tolérable, il faut prendre un certain nombre de mesures, mais personne ne dit exactement les mesures qu'il faudrait prendre.
Mais il fallait déjà en prendre conscience.
Oui.
Tout le monde n'en a pas pris conscience. Oh, dans votre famille politique, tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
Avant Lionel Jospin, on a pris conscience de ce problème et on a cherché, comme d'autres, à le traiter. Ce n'est pas facile. Mais prenons cet exemple-là. Aujourd'hui, on ne peut pas traiter ce problème parce qu'on a saucissonné la police. Il faut aujourd'hui une direction générale de la police judiciaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait Darmanin? Il est en train de la sectoriser par région et par département. Aujourd'hui, on n'a pas d'unité de combat. Si c'est une guerre que l'on veut mener, il faut une direction collective. Il faut une unité de combat. On ne l'a pas. Et si on veut parler des jeunes dans le domaine scolaire, moi j'ai fait une proposition sur une... chaîne de radio que vous connaissez bien, j'ai fait une proposition en disant qu'il faut, à chaque rentrée scolaire, une assemblée générale des parents, des enseignants et des élèves pour adopter en commun le règlement intérieur signé par tous qui garantit la laïcité et la manière dont on doit se comporter.
Les parents, c'est très important. La responsabilité des parents, c'est très important. Il y a également ce jeune garçon battu à mort à Grand-Synthe, dans le Nord. Il s'appelait Philippe. Il avait 22 ans. Plusieurs jeunes l'ont roué de coups. Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été interpellés. L'enquête avance. Le mobile du meurtre pourrait être homophobe. Mais ce que l'on constate encore, c'est l'ultra-violence de ces mineurs, prêts à tuer, comme l'a raconté, vous allez l'entendre, et c'est poignant, le frère de la victime.
suis le premier de ma famille à l'avoir vu par terre allongé.
Il était
ici, allongé par terre, le pantalon abaissé, les chaussures enlevées. Quand je suis arrivé, il y avait déjà les pompiers qui étaient en train de s'occuper de mon frère. Et du coup, j'étais là, je l'ai vu ensemble. On reconnaît même plus sa tête. Les gens, ils n'ont pas d'âme, c'est des gens enfermés à vie, ça, c'est pas. Parce que s'ils prennent 10 ans et qu'ils vont sortir au bout de 5 parce que bonne conduite et qu'après ils reprennent la même chose, la leçon ne leur servait à rien. C'est des mecs qui ont soif de sang, ils vont toujours être en bande, quoi. Autant de violence pour un téléphone, pour une sacoche. Alors que mon frère, il met pas de vêtements de luxe, il met pas de marque, il met rien. C'est débile. Vraiment, c'est débile. Et moi, comme je dis, ce que je souhaite, c'est que justice soit faite et qu'ils prennent perpète.
Voilà, mais il n'y aura pas perpète. Ils ne seront pas enfermés. Ça n'existe pas pour l'instant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans l'ADN de la justice des mineurs, ça.
Ça, c'est de la justice qui le décidera. Vous ne pouvez pas décider à la place de la justice. Mmh. Mais c'est un drame épouvantable que ce frère qui voit son frère en sang par terre. Mais là encore, c'est dû aussi à la manière dont on s'organise. On a fait sauter la police de proximité. Ces jeunes-là, ils savent qui suit, qui veut interpeller, qui veut voler les portables. Mais on n'a pas de renseignements. Tout notre problème, c'est que nous n'avons pas de renseignements.
Moi, je vois ce jeune, il n'a pas peur de la police et ils font. C'est surtout ce que.
Ah non, le jeune en moto, là.
Aussi. Mais là, a priori, à Grande-Synthe, on est dans autre chose que dans le vol, d'après les informations de Sandra Buisson et de notre service police-justice. Il semble que le vol ne soit pas le motif principal,
non.
Ne soit pas le motif tout court, d'ailleurs, de cet homicide volontaire ou involontaire, on le verra bien. Mais on constate quand même que si, effectivement, le motif est l'homosexualité de ce garçon, ou en tout cas le fait qu'il...
Le piège, aurait eu un guet-apens,
qu'il ait voulu rencontrer quelqu'un sur une application, etc., qu'on lui ait tendu un piège, on est quand même là dans quelque chose qui ressemble à nouveau à une sorte de police des mœurs, d'une forme différente de ce qu'a connu la petite Samara, etc. Mais on constate quand même que cette police des mœurs, qui est instaurée dans les quartiers depuis très longtemps, il y a certains quartiers en France où les jeunes filles musulmanes ne peuvent pas sortir sans porter le voile, sinon elles sont taxées de tous les mots de la terre, les mots M-O-T-S et insultés et vilipendés, eh bien, cette police des mœurs est en train de s'étendre à certains autres quartiers qui étaient jusqu'à présent tranquilles et nous ne sommes plus libres à certains endroits de nos mouvements, de nos actes, sous peine effectivement eh bien, de se retrouver dans cette situation.
Gabriel Attal a dit cet après-midi, on va les réécouter tout à l'heure, qu'il faudra lutter contre ça, que c'était inadmissible. Mais je voudrais qu'on écoute le maire de Grande-Synthe. Et pardonnez-moi, c'est un maire PS, mais... Il n'arrive pas à parler d'insécurité, de violence, etc. Il continue. Il est de ceux qui parlent de sentiments d'insécurité, comme si ça ne faisait pas partie de son logiciel, là encore. Écoutez.
Il y a un sentiment d'insécurité qui augmente, puisqu'il y a eu quelques faits ces derniers jours sur la ville de Grande-Synthe, avec ou sans relation avec cet acte ignoble et ce fait divers incroyable qu'on a vécu sur Grande-Synthe. Je ne ferai pas de conclusion hâtive, mais effectivement, mes concitoyens aujourd'hui me contactent parce que, tout simplement, il y a un sentiment de peur, d'incompréhension.
Sentiment de peur et d'incompréhension.
Il y a le sentiment de peur, effectivement, c'est plus un sentiment. L'insécurité, c'est devenu un fait réel, mais surtout, il parle de faits divers. Ce ne sont plus des faits divers. Quand il y a une accumulation de faits divers, ça devient un fait de société.
Admettez.
Si les responsables politiques ne sont pas capables de poser les bons mots sur ces mots-là.
On peut dire qu'il y a une situation inacceptable, intolérable. Mais c'est un maire d'une ville. Son rôle, et là je le défends, c'est de garder l'unité de sa cité. Il ne va pas rentrer dans le débat politique qui est celui que vous avez. Invitez-le, vous verrez qu'il n'est pas sur la thématique.
Oui, mais ce n'est pas le premier à dire sentiment d'insécurité.
Et s'il dit, lui, maire d'une ville, qu'on est dans une situation où on ne tient plus rien, mais c'est sa ville qui saute. Enfin, faut aussi comprendre les gens dans la situation qu'on est. Vous êtes tout le temps à charge. Vous êtes tout le temps en train de charger la mule. Après, vous étonnez qu'il y ait le retour de bâton. Non.
Il y a
des faits divers. Il faut les constater. Il faut les condamner.
Il faut les combattre.
Mais même des faits de société violents, il faut les condamner. Moi, je suis pour.
Mais attention, vous ne pouvez pas dire que la France, mais... de Lille à Marseille, de Strasbourg à Brest, etc., etc., est à feu et à sang.
Mais qui a... Non, mais c'est... personne n'a dit ça. Mais
quand on vous entend, quand on vous écoute, on a l'impression... d'être...
Mais vous nous vous caricaturez.
C'est comme le débat précédent. C'est-à-dire, on prend une question et on en fait une généralité. Moi, je vous dis, il y a une question, on la traite, mais ce n'est pas une généralité.
Mais personne n'a généralisé, pardon, vous m'avez mal compris.
Verbaliser, c'est important. Nous, ce qui nous semble... verbaliser, dire les choses, c'est important. D'ailleurs, Gabriel Attal l'a fait tout à l'heure, et on l'écoutera, mais d'abord, 21h, on a un peu en retard. Simon Guillain, bonsoir, pour rappeler les principaux titres de l'actu.
Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Deux fillettes de 6 et 11 ans ont été blessées lors d'une attaque au couteau à proximité de leur école dans le Bas-Rhin. Elles ont été hospitalisées en urgence psychiatrique. L'assaillant a lui été interpellé par les forces de l'ordre. Et selon la gendarmerie, l'homme n'est pas connu des services de police et ses motivations ne semblent pas être en lien avec une radicalisation. Pour lutter contre la délinquance en Guadeloupe, Gérald Darmanin a ordonné un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre. Cette mesure inédite entrera en vigueur la semaine prochaine et pour une période de 2 mois. Selon la préfecture de Guadeloupe, l'archipel compte 6 fois plus d'homicides et 20 fois plus de vols à main armée que la moyenne nationale. Et puis un homme soupçonné de préparer un attentat contre Volodymyr Zelensky a été arrêté aujourd'hui en Pologne. Le suspect avait pour mission de collecter et fournir des informations au service de ce renseignement russe. Il a immédiatement été placé en détention provisoire.
Merci beaucoup Simon. Je voulais vous soumettre ce sondage, le dernier sondage dont on dispose sur les européennes, c'est notre baromètre OpinionWay. Pas de changement par rapport au précédent, le RN est en tête, 29%, devant la liste Renew, 19%, la liste PS, 3e, 12%, LFI en hausse d'un point, même de 2,8%, les communistes sont en hausse d'un point à 4%. Vous trouvez ça bien?
Mais, non,
enfin, mais pour qui d'abord pour le PS
pour Glucksmann, mais oui. À partir du moment où nous mettons tous au centre Jean-Luc Mélenchon, il gagne son pari. Il est en train de parler à une partie de l'opinion et ce qui le fait monter dans les sondages. Il ne cherche que ça. Pourquoi vous rentrez dans la provocation de Jean-Luc Mélenchon et dans les procès, les machins, les déclarations, etc. On a l'impression que les élections européennes tourne autour de Jean-Luc Mélenchon. Mais non, ça tourne autour d'autres personnalités qui aujourd'hui sont en tête dans les sondages et d'autres qui sont en dynamique comme Raphaël Glucksmann. Il y a un vrai débat.
Sur le RN est à 29%. Je rappelle que vous étiez l'auteur du manifeste contre le FN. Il y a bien longtemps de ça. Il y a bien longtemps de ça. Et vous étiez aussi l'architecte de la gauche plurielle. Absolument. Il y a bien longtemps de ça. Le RN si haut vous inquiète, vous semble au contraire normal, après les sujets qu'on a évoqués.
Bon, je pense que le RN est dans une dynamique qui est celle que l'on connaît dans toute l'Europe, de montée des nationalismes. Ils l'ont fait avant, ils étaient avant cette dynamique nationaliste en Europe. Ils sont en ce moment en train de surfer sur cette vague. Bon, voilà. Déjà en tête lors des dernières élections européennes, pas dans ces proportions, mais ils étaient déjà en tête. Et la situation va sans arrêt vers eux, oui.
Le Parti communiste est très bas, en revanche.
Le Parti communiste est très bas, mais avec une candidature qui demande à s'affirmer. Pour l'instant, c'est un jeune communiste, bon. Ce n'est pas... Roussel.
Allez, on va marquer une pause et on va écouter quelques déclarations de Gabriel Attal aujourd'hui. Fermeté et lutter contre ce qui gangrène la jeunesse et la violence. A tout de suite. Bon, on continue à parler de la violence des mineurs. Il n'y a pas de solution miracle. Sans doute que ça passe par l'éducation. Gabriel Attal a dit toute sa volonté ferme de lutter à défendre l'école et que l'école reste un sanctuaire, évidemment. Donc, il y aura des mesures qui seront prises. On va peut-être en égrener quelques-unes. On va se lever quand les professeurs arrivent.
C'est du bon sens, c'est une forme de politesse et de respect qui semble être quand même à la base de tous nos principes.
Je ne sais pas si ça va changer grand-chose.
On se lève à l'Assemblée nationale quand le président rentre, le président de l'Assemblée rentre.
Tout le monde
la France Insoumise.
Ah, formidable. Il faut responsabiliser les parents, démissionnaires. Ah, ça ne va pas être simple. À l'école, en tout cas.
C'est pour ça que j'ai fait cette proposition l'instauration d'un règlement intérieur qui soit co-signé par l'ensemble de la communauté éducative, parce que comment on responsabilise les parents
pas en leur disant on va vous retirer les allocations familiales, etc. Parce que c'est pas ça qu'il fait, qui va totalement les motiver. Mais c'est quand devant leurs enfants, ils vont dire qu'ils acceptent le règlement intérieur. Et cela protège les enseignants. Parce qu'à partir du moment où tout le monde a décidé ensemble et que celui-ci est publié, non. Ça devient la loi commune.
En tout cas, Gabriel Attal, il n'a pas peur des mots, hein, ni de faire le constat, et vous allez l'entendre.
Une partie de nos adolescents glisse lentement vers une forme d'isolement, d'individualisme, et parfois même vers le pire, vers une forme de violence déchaînée, morbide, sans règles. Comment on en est arrivé à une situation où, alors qu'ils représentent un Français sur 20, les adolescents de 13 à 17 ans représentent un mis en cause sur 10 pour coups et blessures, un sur 5 dans les trafics de drogue, un sur 3 dans les vols avec armes. Il faut un sursaut d'autorité, nous sommes prêts à le donner.
Bon, un sursaut d'autorité, ça veut tout dire, ça veut rien dire, mais, au moins le constat est fait.
Non mais le constat est fait, faire un constat c'est facile, dire l'inverse c'est un constat qui saute aux yeux si vous voulez. Mais maintenant qu'en est-il des actes ? Parce qu'en réalité, Gabriel Attal va donc demander au garde des Sceaux de refaire une réforme de la justice des mineurs. La dernière réforme de la justice des mineurs, elle a 3 ans. Elle a été faite par le garde des Sceaux qui est en poste, qui s'appelle Éric Dupond-Moretti.
On constate qu'elle ne marche pas.
Non, mais d'accord.
Ou qu'elle est insuffisante.
Emmanuel Macron, constatant son propre échec, demande à son gouvernement de refaire une réforme qu'il avait lui-même demandée il y a 3 ans. Vous voyez bien qu'on marche sur la tête.
Mais ça, c'est la communication. Aujourd'hui, le gouvernement en est réduit à ce type de déclaration. On pourrait dire, fois de plus, que si on a besoin d'un sursaut d'autorité, c'est qu'il n'y en avait pas avant. Donc cela veut dire que Gabriel Attal met en cause l'ensemble des premiers ministres et du président de la République gouvernent depuis quelques années. Donc on peut tout... Et ça ne changera rien parce qu'on ne prend pas le problème à la racine, qui est la communauté éducative, et que l'on ne se donne pas les moyens dans la police d'avoir le renseignement pour pouvoir agir.
Bon, alors, parmi les idées... Parce qu'il y a des idées qui ont été... mettre les enfants à problème dans les internats.
Sérieux. Avant qu'un jeune ne tombe vraiment dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à avoir de mauvaises fréquentations, à traîner dans la rue, nous proposerons aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger. Pour ces jeunes, l'internat sera une opportunité, celle d'apprendre, celle de retrouver un cadre. Celle de conserver intactes ses chances de réussir, celle d'éviter de sombrer dans la spirale de la délinquance et parfois du crime.
Oui, moi j'ai des amis aussi qui étaient à l'internat, c'était pas les plus calmes hein, en internat, c'était pas les plus simples, c'est pas ceux qui faisaient le moins de conneries hein, pour être clair.
J'étais dans un internat.
Vous étiez interne.
Oui, pour ma scolarité. Mais
vous êtes devenu trotskiste.
Oh, mais ça, bon, après, dans la jeunesse, j'étais pas le seul, je crois, à l'époque. Non mais, franchement, nous n'avons pas de marge de manœuvre budgétaire. Les internats, ça se construit. On n'a pas de place pour les prisons qui sont déjà à peine construites, suroccupées. On est donc dans cette situation où on annonce aux Français qu'on va faire des internats. Ça a déjà été fait. Hein.
Alors, moi j'ai compris qu'il y avait des places d'internat vides. Hein. Je ne sais pas, Johan, mais moi j'ai compris qu'on ne construisait pas là, pour l'internat.
C'était, vous verrez.
On va construire des internats.
Non, mais c'est des annonces qui ne seront pas suivies des faits. Alors, qui vont encore plus décourager les Français.
En tout cas, je rappelle que ces annonces ont été faites à Viry-Châtillon. C'est l'endroit où Shamseddine, 15 ans, est morte après avoir été tuée et rouée de coups pour avoir osé parler de sexualité. Ce qui ne se fait pas, selon certains, parler de sexualité. À Montpellier, on peut rappeler que Samara, vous l'avez dit tout à l'heure, a été cyberharcelée et agressée parce qu'elle s'habillait à l'européenne. Et là, sur ces questions qui sont sans doute plus importantes d'islamisation à l'école, Gabriel Attal a eu cette déclaration.
Il n'est pas question qu'une idéologie religieuse vienne contester la loi dans des quartiers. Pas question qu'une jeune fille ne soit pas libre de s'y promener sans voile si elle le souhaite. Pas question qu'un jeune garçon ne puisse pas manger ce qu'il souhaite quand il le souhaite. Partout en France, la seule loi qui s'applique, c'est celle de la République. Il n'y aura pas de guerre des religions à l'école. Car à l'école, la seule règle qui vaut, c'est la laïcité. C'est un combat sur lequel je suis en première ligne depuis longtemps. Un combat pour lequel j'ai déjà pris des engagements forts, suivis des faits, comme l'interdiction de l'abaya et du camis à l'école. Un combat autour d'un mot d'ordre, là aussi, le pas de vague, c'est fini.
Voilà, Gabriel Attal, il parle bien d'entrisme islamiste à l'école.
Mmh. Ça existe, mais ce n'est pas la généralité.
Non, mais ça pourrit la vie de certains élèves.
Ça
peut en tuer certains.
Mais si, ah oui, par ailleurs, là vous avez raison, mais si on dit cela, c'est qu'on a des preuves. C'est qu'on a constaté cet entrisme. Donc il faut dire, puisqu'on est Premier ministre, où et qui, et prendre des mesures par rapport à ces lieux.
Là, supprimer la baïa, interdire la baïa, ça en faisait partie.
Mais bon, vous avez vu que ça avait modifié la situation. Bon, donc, je ne crois pas à ces mesures qui visent à répondre à une demande dans la société française, qui est portée par un parti politique, qui pendant ce temps-là ne s'exprime pas, et ceux qui disent pouvoir le combattre recyclent dans leur programme ou dans leur déclaration ce que disent le Rassemblement national. Je trouve ça terrible.
Dernier point, c'était l'excuse de minorité. On a un peu évoqué, mais Gabriel Attal a annoncé aujourd'hui que le débat allait être ouvert et qu'il pourrait être question d'une atténuation de l'excuse de minorité. On peut aménager déjà les choses, mais je voulais qu'on écoute une magistrate qui est intervenue aujourd'hui dans 180 Minutes Info et son commentaire est éclairant.
En ce qui concerne l'excuse de minorité, oui, bien sûr, on peut faire des choses. Ce qui se passe en l'état, c'est que l'excuse est automatique pour certains, c'est-à-dire diminution par deux, et facultative pour d'autres, c'est-à-dire que le principe s'applique, sauf si on en décide autrement. On pourrait très bien renverser ça et dire que pour les infractions les plus graves, les crimes, les atteintes aux policiers, les atteintes des mineurs sur des mineurs, tout ce qu'on a vu récemment dans l'actualité dramatique, pourrait s'inverser, c'est-à-dire que le principe, par exemple, de 16 à 18 ans, c'est pas d'excuse de minorité, sauf motivation spéciale des juges. Vous me direz, c'est juste une motivation. Oui, mais quand on renverse les principes, quand on change les paradigmes, on peut aussi changer les pratiques. Ce qui est important, au-delà du prononcé des peines, c'est qu'elles soient exécutées, et exécutées rapidement.
Ça, c'est peut-être sans doute le plus important, c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler.
Oui, mais c'est vrai que c'est un débat qui est vieux comme le monde. Mais les politiques parlent de cette question depuis des années, si ce n'est des décennies. L'excuse de minorité, elle est dans le débat public, mais toujours.
Parce que ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que quand vous avez des gamins de 14 ou 15 ans qui ont des couteaux et qui tuent, c'est qu'il y a une question qui se pose.
Non, mais regardez où on en est. Le Premier ministre parle. Il ne propose pas ce qu'on vient d'entendre.
Non, c'est vrai.
Il propose une commission.
C'est vrai.
Je veux dire, si on pense vraiment qu'il y a un entrisme dans nos écoles, qu'on est submergé, on ne fait pas une commission.
On prend une décision.
Moi, ce n'est pas ma position. Mais je ne comprends pas à quoi on joue.
C'est purement électoraliste. Vous dites c'est pour aller aujourd'hui.
Écoutez,
dans ce moment-là,
comme moi, sur Gabriel Attal, le seul endroit où il est un petit peu en hausse, c'est la laïcité. Donc il utilise la laïcité parce que c'est son seul point fort.
Bon, on en a terminé, mais je voudrais juste vous montrer une toute petite séquence pour terminer, qui va vous donner sans doute le sourire. Ça fait partie des séquences de la série et des imprécisions de Joe Biden. Il a confondu deux villes en parlant visiblement à un média américain. Regardez.
J'ai dit clairement aux Israéliens, n'allez pas à Haïfa. Ce n'est pas... Je veux dire... Bon, peu importe. Regardez ce que nous avons fait lorsqu'Israël a été attaqué.
Voilà, mais... Il faut compter sur Joe Biden pour, attends, pour sauver le monde.
Il confond les dirigeants de
sa vie.
Il y a un âge pour tout, je crois.
C'est-à-dire, soyez plus précis, parce que là, on va se quitter. Il y a un âge pour tout. Pensez que l'âge est...
Trump, t'es trop vieux et...
Et Biden,
là, c'est la jeune génération.
Biden encore plus.
Oui, mais d'accord,
passe la main.
Trump n'est pas mieux, il se trompe, il a des blancs dans ses interventions. Bon...
Mais par exemple, vous pensez trop vieux pour être président de la République, par exemple ?
Pour mener un combat politique, parce que président de la République,
Non, parce que vous avez des gens autour de vous. Vous avez des conseillers. Quand vous confondez Haïfa et Rafah, on dit, monsieur le président, c'est Rafah. Oui, bon, allez, moi, c'est Rafah, donc je voulais parler. Vous avez des gens qui font la politique avec vous. Bon, mais dans un combat politique, bah, ces failles-là, on les voit. Et donc, à partir de là, on se dit, bah, est-ce que je vais voter pour lui? Donc, on va faire passer l'autre, qui est aussi dans la difficulté mentale. Par rapport bon. Celui que l'on ne veut plus défendre.
Il faut qu'on s'arrête. Merci beaucoup Jean-Christophe Condalise d'avoir été avec nous ce soir. Merci Johan, dans un instant Soir Info, Maureen Vidal et puis évidemment comme tous les soirs Julien Pasquet, on se retrouve lundi. Bye bye.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com